crois.
Ouais.
Casse ça tourne.
Interview et paroles d'ici et de maintenant.
Pour Casse ça tourne, on a rencontré Marin Fouquet dans le cadre d'ateliers autour de la répression. Il nous a parlé de son nouvel ouvrage GAV, sorti en 2021 chez Actes Sud. Un roman dont le sujet est, comme son nom l'indique, la garde à vue. Il croise plusieurs situations individuelles pour mettre en avant les rapports de domination qui traversent notre société. On le laisse vous en dire plus.
Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre livre GAV ?
Alors, je m'appelle Marin Fouquet, je suis romancier, c'est mon deuxième roman. J'ai écrit un premier roman qui s'appelle 7-7, qui se passe dans le 77 en Seine-et-Marne, là d'où je viens à la base, sur un jeune type dans un abribus sous une capuche, qui passe sa journée à fumer des joints. Et il va parler au fur et à mesure de son village, des rapports qu'il y a dans son village et de son rapport à la virilité. Et là, le deuxième roman, donc, c'est GAV, qui est sorti cette année. Et ça se passe donc pendant une nuit, en garde à vue dans un commissariat. Il y a huit voix qui s'élèvent au fur et à mesure. Et on va comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que chacun se retrouve à un moment donné dans ces cellules.
Et pourquoi vous avez fait le choix d'écrire autant de personnages et de vies qui se croisent ?
Parce que pour moi, c'était important. C'était comme un travail d'honnêteté. C'est-à-dire que il fallait que j'arrive à déployer une fresque assez grande pour pouvoir retracer tous les rapports de violence, tous les rapports d'oppression.
De établis dans l'émission Le Bruit des Balles,
tous les rapports d'oppression sont intrinsèquement liés.
Donc
ne parler que d'une, c'est-à-dire ne parler que des violences policières, ça aurait pu être quelque chose, mais ça m'intéressait plus de brosser le plus large possible pour montrer à la fois que dans un commissariat où on est censé être sur un pied d'égalité, c'est-à-dire on est sur une zone de non-droit pour tout le monde, donc dans l'idée zéro droit pour tout le monde, on est sûr, dans une société totalement inégalitaire comme la nôtre, on est enfin sur l'égalité par le néant, et en réalité reste des privilèges, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on risque pas la même chose, qu'on soit hétéro ou qu'on soit homo, on risque pas la même chose, personne racisée ou blanche, pas la même chose, et pareil, classe bourgeoise ou classe plus prolétaire ou modeste, pas la même chose non plus.
Alors, comment vous vous êtes documenté pour écrire ces personnages et elle était construite à partir de personnages existants, de témoignages ?
Alors, à chaque fois, quand j'écris, j'essaie de partir de choses que je connais, que j'ai vécues, que j'ai ressenties, ou alors que des proches ont vécu ou ressenti. Et au fur et à mesure de m'éloigner par la fiction et de pouvoir au fur et à mesure brosser plus large que déjà moi-même mon propre vécu qui est conditionné par ce que je suis dans la société et dans ma manière de penser. Et c'est un petit peu de faire sauter les préjugés, les clichés que moi-même j'ai et qu'on peut avoir. Le premier personnage que j'ai écrit, c'était le personnage de Cavambre, qui est une jeune manutentionnaire dans un entrepôt. Et en fait, je l'ai écrit au moment où je travaillais moi-même dans un entrepôt. Avant que mon premier roman sorte, j'étais manutentionnaire. Et je voulais au début écrire ce rapport-là, le rapport de l'entrepôt, le rapport au travail, qui n'était pas drôle du tout. Et j'ai voulu écrire ça, c'est le premier personnage. Puis ensuite, pour compléter cette fresque, j'ai été vers certains qui sont très proches de moi ou de ce que j'ai vécu, et d'autres très loin. Il y a un personnage qui est le personnage du flic, où là j'ai dû faire beaucoup de recherches, parce que en fait, de la même manière que plein de personnes ont des préjugés sur certaines classes sociales, moi j'avais énormément de préjugés sur les flics, et donc j'ai dû encore, comme travail d'honnêteté, aller un peu creuser, essayer de comprendre ce qui pouvait pousser à vouloir faire ce métier. Me rendre compte que sur les le compte exact je l'ai pas, mais la dernière fois que j'ai compté c'était depuis les années 70, il y a 747 personnes qui ont été tuées en France par la police. Donc ça c'est une chose, mais de l'autre côté il y a un nombre qui a jamais été, je sais pas s'il a pas été compté ou s'il est pas tout simplement divulgué par les syndicats de police, mais de flics qui se suicident avec leur arme de service, donc qui signifie à un moment donné un acte par rapport à leur profession. Et donc voilà, essayer au fur et à mesure de considérer les personnes tuées par la police et les flics qui se tuent eux-mêmes comme les deux faces d'une même pièce. Et essayer de pouvoir brosser, pouvoir montrer un truc un petit peu plus large que juste soit une haine anti-flic, soit une glorification de la police. Essayer de brosser le tout.
Vous vivez dans le 93. Est-ce que des liens peuvent être faits entre des territoires spécifiques
et la présence de mécanismes de répression. Avez-vous été témoin ou victime de ces répressions, justement ?
Bah déjà, la répression, elle se fait partout. Elle se fait partout, se fait quelles que soient les... Si on sort de l'idée de la répression policière, elle se fait partout, quelle que soit la classe sociale. Je ne la connais pas, mais j'imagine que dans les classes, même bourgeoises, il y a des formes de répression. Ça ne m'étonnerait pas. Je pense qu'on est dans une société dont l'essence, c'est la répression et qui fonctionne à ça. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que dans les classes bourgeoises, ils n'auraient pas. Malheureusement, je ne connais pas leur mécanisme, donc je ne pouvais pas en parler. Je n'étais pas la personne légitime pour en parler. Par rapport au 93, c'est une réalité, les forces policières sont essentiellement déployées en France, en Ile-de-France. L'essentiel est en Ile-de-France et en Ile-de-France dans le 93. C'est l'endroit où il y a le plus de flics. À ça s'ajoute le fait que c'est l'endroit où il y a le plus de flics jeunes. C'est-à-dire que les vieux flics, ils demandent à être mutés ailleurs. Donc on se retrouve avec des équipes d'intervention où il y a un vieux pour 10 jeunes. Donc en termes d'encadrement, on est sur un réel problème, et ce qui ensuite, je pense, participe, c'est pas le seul élément, mais participe aux violences qui en découlent derrière.
En tant que mec blanc, comment vous arrivez à pouvoir écrire quelque chose qui se rapproche quand même beaucoup de la réalité pour des personnes racisées ou des femmes ?
Ça, c'est une vraie question que je me pose à chaque fois, et en faisant très attention, en me fliquant moi-même, c'est-à-dire... en essayant de cerner au fur et à mesure que j'écris et que je corrige de qu'est-ce qui appartient du cliché, de clichés qui viennent de moi, qu'est-ce qui est une construction uniquement de pensée, de représentation. Aussi, bien sûr, en discutant avec mes proches et en ouvrant les yeux et les oreilles, tout simplement. Mais surtout en faisant extrêmement attention.
Pouvez-vous nous lire un extrait de votre livre qui vous paraît assez représentatif de ce que vous avez voulu travailler avec ce livre ?
Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Mais pour continuer sur votre question, qui me paraît, je vais trouver la page entre-temps, je vais essayer de diviser mon cerveau et de réfléchir aux deux. C'est une vraie question parce que, pour moi, elle s'est posée... Après 7-7, ou 7-7, je parle d'un jeune homme et de son rapport à la virilité. Et là, j'étais dans une zone de légitimité pour moi. Et après, je me suis dit, mais ça veut dire que tu vas que écrire des histoires d'hommes blancs. Il n'y aura que des hommes blancs dans tes livres, dans tes histoires. Et ça m'a paru à la fois assez triste et assez obscène, en fait, de juste écrire des... Enfin, c'est ce qui a été fait essentiellement dans la littérature, dans les films, dans tout ça. Donc se poser vraiment la question, quoi. Et donc c'est un vrai truc, et j'ai pas la réponse, j'ai pas une réponse qui soit juste, j'ai peut-être juste des excuses intellectuelles que je me donne pour pouvoir écrire, peut-être.
Mais est-ce que c'était pas... Il y a une forme d'envie d'apprendre à se déconstruire, à essayer de chercher autre chose que ce qu'on nous apprend dès qu'on est, si on est un homme blanc, et du coup faire une recherche derrière, c'était vraiment... Vous qui avez souhaité faire ça, ou c'est en se disant je vais écrire un livre qui va pas parler que de moi ou d'expériences que j'ai vécues, donc je vais pouvoir agrandir mon champ de recherche.
Les deux, parce que déjà on est beaucoup dans une mode dans la littérature aujourd'hui de parler de soi. C'est des écrivains qui vont parler de leur vie, et là où ça peut trouver ses limites, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a écrit un livre sur soi, on va écrire un livre sur sa mère, et puis ensuite sur sa sœur, et puis ensuite sur son père, et puis ensuite sur ses cousins, et se pose la question du pillage, c'est-à-dire que tu vas d'un seul coup donner à lire à des gens la vie de personnes qui n'avaient pas forcément envie à la base qu'on connaisse leur vie. Donc ça, déjà, ça pose une vraie question, et en plus de ça, il y a la volonté, oui, d'essayer d'écrire des histoires qui ne soient pas... qui ne soit pas uniquement centré sur un seul point de vue, un point de vue qui est toujours le même, et qui, moi, personnellement, a constitué mon rapport aux autres, mon rapport à moi. Enfin, c'est tout bête, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Je sais pas, le Star Wars, le premier baiser de Star Wars, c'est il la force à l'embrasser, et elle kiffe ça, et c'est sa sœur. Donc voilà. Ça, c'est que des histoires, en fait, qui, à un moment donné, rentrent dans la tête quand on est ado et même quand on est adulte, et qui vont fonder un rapport à l'autre et peut-être essayer, à sa mesure, d'écrire d'autres types de rapports possibles. Alors, un extrait qui, qu'est-ce que je pourrais raconter ? Un extrait qui... Bon, bah, on va commencer à la première page. Je pense que c'est un extrait qui... Clé de bras. Une grosse main gantée se pose sur l'épaule gauche, tandis qu'une autre saisit le poignet droit. Remonte dans le dos, le long de la colonne, à l'endroit exact où les jointures craquent. Lève, tire, tord, plaque. Au moindre mouvement, déboîte. Déboulé de nulle part, lunettes de soleil, rictus soleil, un type derrière vous, cœur d'après-midi, rue passante. Exhorte, expire, braque. Direct, il prend la seconde main et réunit le tout en un bouquet de 20 doigts, deux paumes. Menotte, inspire, cardiaque. Serrant fort, appuyant de tout son poids sur votre nuque, il vous pousse d'un grand coup pour que ça avance. Tête dans le sac. Vite rejoint par un escadron de crânes rasés, tous habillés civils, habillés sportwear, habillés survêt, sacoche et basket, habillés racailles, habillés sans matricule, habillés pour la course et le camouflage, il vous jette à l'arrière du fourgon. Pince au poignet, fracas des portes qui se referment. Chaque entrave creuse la chair. C'était hier, le rouge au corps. Maintenant, vous êtes là, dans le couloir gris de ce commissariat, la tête contre le carrelage froid. Pourtant, on vous l'a bien dit, bien martelé et répété, tu n'as rien à déclarer. C'est le type dans la cellule qui vous l'a conseillé pendant la nuit, avec les bruits de pain en écho et la banquette en dur aux odeurs de vomi, de sang et d'urine. L'humanité en package. Tu n'as rien à déclarer. Quand ils t'emmèneront dans le bureau, surtout, tu n'as rien à déclarer. On vous l'a bien dit et répété. Alors au matin, quand ils viennent vous chercher dans la cage, le ventre vide parce qu'arrivé la veille, juste après le dernier passage, service du soir, les trois mots vous tournent dans la tête. Rien n'a déclaré. Puis viennent les couloirs, les claquements de portes, la chaleur soudaine, la sueur au cou, les échos peut-être, et les trois mots qui tournaient en boucle dans votre crâne lentement s'humidifient, se diluent, deviennent bouillies, voyelles, consonnes, râles incertains, langue qui s'oublie. Merci à vous.
Ok. Du coup... jolie éloquence, et justement une question un peu par rapport à ça, enfin indirectement, mais quel lien est-ce que vous faites entre votre travail de rappeur et votre travail d'écrivain ? Est-ce qu'il y a du lien ou des différences entre du coup être rappeur et écrivain ?
Alors moi j'ai commencé vraiment l'écriture avec le rap. Maintenant aujourd'hui du rap j'en écris uniquement pour moi, ou lorsque je fais des performances je mets toujours des parties rappées dedans. On a beaucoup aimé me présenter comme rappeur et auteur, parce que ça fait toujours bien. C'est quelque chose aussi qui justifie des subventions, c'est-à-dire c'est génial, il est auteur, mais il est à la fois rappeur, donc ça va intéresser les jeunes. C'est aussi quelque chose qui fait bien sur un plateau de télé, parce que ouais, pareil, on fait croire à une sorte de diversité, alors que je suis juste un homme blanc qui écrit des romans, et donc on a une illusion quoi, de diversité. Moi, le rap, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'écoute tous les jours, mais j'en écris maintenant que pour moi. À un moment donné, j'ai rêvé d'être rappeur. Après, quand j'étais adolescent, il y avait des rappeurs blancs qui venaient du 77, donc c'est plus la campagne qu'autre chose. Il n'y en avait pas. Et pour moi aussi, déjà, ça posait un premier problème de légitimité. On n'avait qu'un seul truc, c'était Camini, je ne sais pas si vous avez connu ça. Camini, c'est un type qui a fait une... Il a fait des albums d'ailleurs, mais c'est plus de la blague, quoi. Il est sur un truc d'humour, et donc c'était le seul rappeur campagnard, quoi. Donc pour moi, il y avait ce truc-là, rappeur, c'était impossible. Puis après, ça s'est débloqué. Maintenant, il y a même des petits bourgeois qui font du rap, et ça pose pas de problème.
On pense à Aurel San, d'ailleurs.
Ouais, Aurel San, mais ils sont pleins, L'Homme Pâle, tous ces trucs-là qui sont, moi, je trouve, les trucs les moins intéressants. Ouais. Dans ce qui se fait, mais il rassure le journaliste, il rassure le programmateur, et voilà. C'est pour ça que je pense qu'essentiellement ça marche. Mais dans le travail, pour moi, comme c'est ce que j'ai commencé à écrire par le rap, ça a conditionné en fait mon rapport à l'écriture, et donc pour moi une phrase elle est bonne quand elle sonne, et c'est pour ça que tout le temps, pour moi ce qui est important c'est le rythme. C'est qu'il y ait les peu, les que, les te, les re, qu'il y a une musique qui se crée au fur et à mesure. Et donc pour moi, il est là, il est vraiment le lien, il est formel, quoi. C'est dans la forme.
Ok. Et c'était quel genre de style de rap que vous écriviez ?
Du rap très, très énervé, très en colère. Okay. Je gueulais beaucoup. Par chance, je crois que le peu de choses qu'il y avait avant sur Internet s'est perdu au milieu de plein d'autres choses. Parce que les textes étaient certainement, je me souviens pas de tous, c'est certainement pas tous très bons. Mais ouais, très énervé, très en colère et très dans un rapport assez viril au truc. Même si les textes se voulaient engager, la forme restait une forme extrêmement problématique.
Artistiques ou politiques qui vous ont influencé pour écrire ce roman et comment vous vous situez par rapport à ces références-là ?
Références artistiques ou politiques. Il y a des romans bien sûr qui m'ont marqué, il y a des auteurs, des autrices qui m'ont marqué, il y a Virginie Despentes m'a marqué, Toni Morrison m'a marqué. C'est des choses bien sûr que j'ai forcément à l'esprit quand j'écris. Coltès aussi, Camus, enfin voilà, je l'ai forcément quelque part, ça doit être quelque part là. Après, j'essaie de m'en débarrasser au moment d'écrire, parce que sinon c'est des poids qui sont impossibles à porter. Enfin, si on a au-dessus de son épaule Toni Morrison qui est sur une épaule, Virginie Despentes de l'autre, Camus au-dessus de la tête. C'est impossible d'écrire, je crois. Après, bien sûr qu'il y a plein d'artistes, même il y a des films qui m'ont marqué. Le réalisateur Paul Thomas Anderson, pour moi, ça a été un... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films à lui. Je crois qu'il en a sorti un dernièrement que je n'ai pas encore vu. Il s'appelle... Je sais plus le nom, mais il a sorti There Will Be Blood, il y a longtemps. Un film de ouf. Enfin bref, il y a des réalisateurs, bien sûr, il y a plein de trucs, puis bien sûr des rappeurs, des rappeuses. Kazay, ça a été le truc le plus... qui est peut-être le truc qui a le plus irrigué GAV, je pense. C'est les textes de Kazay, et aussi plein d'autres choses. Après, politique, il y a des personnages hein, dans le bouquin qui sont des anarcho-autonomes. C'est la partie qui a été... la plus simple à écrire pour moi, parce que c'est celle qui était la plus proche de moi à un moment donné. Et c'est une des parties la plus... Ça fait partie des parties les plus critiques vis-à-vis des personnages. Parce que c'est une... En vrai, même si j'y ai mis beaucoup de choses qui me sont propres et des choses parfois tendres, c'est une belle bande de virilistes en puissance, en fait. Parce que je crois fondamentalement, et ça c'est uniquement lié à mon expérience, et peut-être pourrait être discuté, mais je crois que pour beaucoup de personnes de ce milieu-là, je parle d'hommes, c'est une bravade. Le rapport à la police, c'est une bravade. C'est quasiment un rite initiatique de virilité. Le flic, c'est papa sur lequel on a le droit de taper dessus. C'est Macron qu'on a en chair et en os. C'est le rapport au pouvoir. Et ils risquent rien. Ils risquent rien. Pour la plupart... Enfin, de moi, ceux que je connais et que j'ai pu fréquenter, des hommes blancs, hétéros, de milieux sociaux plutôt aisés, voire même bourgeois. Et on est dans un rapport uniquement ouais, de bravade. Quand on regarde sur les 747 personnes tuées par la police, depuis les années 70, il doit y en avoir moins de 10 qui sont des hommes blancs. C'est-à-dire que le risque n'est pas le même. Le risque n'est pas le même. Quand on rentre ensuite chez soi, il y a un chez soi très calme qui attend, et la révolte et la révolution est un luxe. Et donc voilà, moi c'était aussi ça que je voulais creuser dans ce truc-là, c'est-à-dire que c'était à la fois nécessaire, je crois, de faire un livre qui traçait beaucoup de choses, hein. Les violences au travail, les violences dans la sphère intime, dans le couple, plein de violences différentes, et... plein de types de violences et aussi la violence policière, mais aussi qui montrait que dans certains milieux activistes, moi il y a des phrases que j'ai pu entendre, par exemple, enfin la seule fois où j'ai fait une garde à vue, quand j'ai eu au téléphone un de ces membres là, il m'a dit, juste avant en fait de rendre le téléphone, il m'a dit, je me rappellerai toujours, tu vas voir, ça va être difficile, mais après avec les filles ça va bien mieux marcher. Et pour moi, ça résume la mentalité qui peut y avoir et qui a un rapport uniquement de virilité. Et ça pourrait être donc la manifestation, mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est juste un rite initiatique. Et pour terminer là-dessus, par exemple, je ne sais pas si vous avez pu entendre ça, parce que j'ai l'impression que vous êtes plus ou moins dans des milieux militants, mais par exemple, lorsqu'une personne racisée ou une femme va d'un seul coup dire « là, ce que tu viens de dire, c'est sexiste » ou « là, ce que tu viens de dire, c'est raciste », très vite, ça va être passé sous silence, et il y a cet argument massue, cet argument choc qui peut y avoir dans certains milieux d'extrême-gauche, de dire « tu divises la lutte ». Non mais, on arrête de parler de ce truc-là, de ton truc de genre, de ton truc de machin, de ton truc de bidule. Là, en fait, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est le grand capital, quel que soit l'argument qu'on... Enfin, le truc qu'on met en face. Et on est en fait dans une reproduction à échelle de micro-communautés et de communautés de pensée. On a une reproduction exactement des schémas d'oppression qui se passent dans ce qui est censé être combattu. Donc voilà.
Et du coup, pourquoi avoir écrit ce livre et considérez-vous l'écriture comme un moyen de lutte ?
Je crois que l'écriture, et quel que soit, je sais pas pour les autres métiers, je peux que parler du mien, mais je crois que, enfin, en tout cas, écrire c'est politique, quoi qu'il arrive. Même si on écrit un livre de développement personnel, ça reste un type de propagande. C'est une propagande macroniste, de dire c'est par toi-même que les choses vont arriver, le problème vient de toi, il faut que tu trouves le moyen de sortir la meilleure version de toi-même et compagnie. C'est politique. Un roman à l'eau de rose totalement aseptisé, c'est politique aussi. C'est une manière de faire passer le réel extrêmement violent, de le faire passer comme... faire passer une heure, deux heures, enfin le temps de la lecture, qu'on puisse se mettre loin de tout ça. Donc quel que soit ce qu'on écrit, c'est politique, donc au moins pour ce roman-là, pour les autres je verrai, mais dans le premier ça l'était déjà pas mal, je verrai si je pense autrement plus tard, mais au moins dans celui-là je me suis dit quitte à ce que ça soit politique, autant que ça le soit totalement. Mais politique, encore une fois, en ayant un regard compréhensif et tendre, mais aussi en tapant sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les méchants flics et de l'autre côté les bons black blocs. Je ne pense pas les choses comme ça.
Alors, est-ce que c'est possible que tu fasses un petit freestyle ou de nouveau une petite lecture ?
Oui, une lecture plutôt. Parce que le rap, c'est vraiment... par exemple, là, dans deux jours, je serai à Arles pour une performance, et il y a un passage, il y a des passages rappés où sur scène je compose de la musique et je rappe, mais parce que ça fait partie d'un tout, il y a des extraits du roman, il y a d'autres textes qui sont plus de la poésie sonore, il y a plein de choses différentes, il y a du chant, et c'est un tout. Et sinon les trucs juste de rap ou de freestyle, c'est plus maintenant des trucs pour moi, enfin intimes quoi. Allez, un autre extrait. Allez, on va aller vers quelque chose de plus tendre. Allez, ça. Étreinte. Une petite main fine ébouriffe les cheveux, tandis qu'une autre effleure la joue. Glisse vers la bouche, le long de la pommette, à l'endroit exact où la cicatrice rougeoie. Parcours, sillonne, lapse. Au moindre mouvement, s'échappe. Un corps face à un autre, regard curieux, grimace en peine, avait déboulé de nulle part, cœur de récré, fond de cour. Les mains s'étaient d'abord saisies, brusquement, jeu de dupe, pour ensuite attraper les hanches et les enrouler vers le sol. Dans la poussière d'une bagarre, tendresse camouflage, les sillons papillaires s'étaient retrouvés contre ceux d'une suture. Un instant, un silence. Et la gêne qui pourrait les saisir l'un et l'autre, deux corps devenus funambules, suspendus à un doigt. Un regard s'abaisse, l'autre s'attarde. La cicatrice, vue pour ce qu'elle est. Une vallée, calme, un dénivelé abrupt, un col sec, une crête, un adret, une arête, un large plateau, une paroi escarpée, une crevasse, un mont, une gorge, un coteau, une avalanche de larmes, une retenue d'eau, un nubac, une aiguille, un pic suivi d'une falaise, d'un piémont, d'un sanglot. Oui, la cicatrice écoutée pour ce qu'elle est. Une parole au monde qui dit avec pudeur le trauma, la blessure en témoignage, la meurtrissure comme tatouage. Le corps n'oubliera pas, il fera avec, il composera. Ensuite, la cicatrice entendue pour ce qu'elle est. Un aveu, une tentative. Sans cicatrice, on ne guérit pas. Un franc-jeu, une nominative. La cicatrice se passe d'argot. Nombreux les corps qui résonnent mal avec les mots. Enfin, la cicatrice crue pour ce qu'elle est. Une souffrance profonde que rien ne referme. Un laps. Juste un laps. Pour être vu, écouté, entendu, cru. Ni oubli, ni pardon. Et puis le bassin qui pivote, poids de corps valdingué, retour à la bagarre, poussière et rire éructé.
Merci.
Merci à vous.
C'était Marin Fouquet pour Qu'est-ce que ça tourne. Si vous voulez en savoir plus sur la répression, vous pouvez écouter Maintien de l'ordre établi dans l'émission Le bruit des bails ou l'épisode de Qu'est-ce que ça tourne avec le Cassis 42 ou encore l'épisode du 9 avril de Sajakas de Tout sur Tout. Tout ça est disponible sur radiotchiel.org.